Oui, bonjour, ici Fabrice Lucchini. J'ai bien sûr déguisé ma voix. Ah merde, je viens de donner mon nom, c'est pas grave. Je vous appelle dans la détresse la plus totale. Vous diffusez une émission concernant des terroristes d'extrême anarchistes de gauche autonomes, juste avant que moi, Fabrice Lucchini, je fasse la pub pour le TGV. Est-ce que vous avez... Mais c'est énorme ! Alors, moi, j'en suis réduit à faire de la pub sur le TGV pendant que vous faites des reportages sur la résistance populaire authentique du plateau de Mille Vaches. Merde. Bonsoir.
Oui, Daniel, c'est Jean-Yves de Limoges. Je suis routier et tarmacois d'origine. Et j'étais vraiment enthousiasmé par ton émission d'aujourd'hui. Merci et encore bravo.
Oui, bonjour, c'est Bernard de Grasse. Je suis en train d'écouter votre émission sur ce qui s'est passé dans un petit village du centre de la France. Monsieur Mermet a dit que les journalistes se sont fait avoir. Moi, je crois pas. Je crois qu'ils sont totalement, complètement responsables et complices de ce qui est en train de se jouer en ce moment. Et je crois que si Monsieur Mermet est capable de croire que ces gens-là sont bernés par le pouvoir, c'est qu'il est aussi con que eux. Au revoir, messieurs.
Ouais, salut, c'est Mike. Alors, je viens du Limousin, j'écoute la radio, là. C'est bien. Parce que moi, je suis tailleur de pierre dans mon village. Alors, ça me fait marrer parce que c'est pareil, nous, on fait un petit peu notre gnôle comme ça. Le soir, on discute entre nous. On fait le monde. Et c'est vrai que c'est souvent qu'on se dit qu'on va aller tous les buter, les mecs, là-haut. Mais bon, c'est juste l'excès de l'alcool, qu'on rigole bien. Et puis après, ben, c'est sympa. Moi, je fais pousser mes patates, je fais pousser mes... Bon, ma petite herbe et tout, c'est bien, je suis artisan dans le coin, quoi. Et donc, du coup, je me dis que le soir, comme ça, j'ai un peu de forge, je fais des glaives, des haches, des machins comme ça. Et qui débarque, les 150 flics, là, demain matin, juste pour voir, là, parce que moi, je suis anarchiste, j'ai pas le droit de l'aide, j'ai quelques livres dans la bibliothèque aussi. Alors, qui viennent, on les attend, nous. Allez, salut, c'était Mike, Limousin, salut.
Oui, bonjour à tous et à toi Daniel qui nous alerte souvent et encore plus ces temps-ci sur la fabrique du consentement et les manipulations dont nous devons nous défendre. Alors à ce sujet, je voudrais dire que je récuse complètement le terme de grogne qu'utilisent souvent les journalistes, certains journalistes, y compris encore ce matin sur France Inter à 8h, la grogne des enseignants, la grogne des magistrats, on va bientôt parler de la grogne de la jeunesse grecque, j'imagine. Et non, c'est pas de la grogne, c'est de la colère. Et c'est surtout de la résistance. Voilà. Au revoir.
Oui, bonjour, bonsoir. Le vendredi 12 décembre aura lieu le prochain repère de Montpellier. Et cette occasion, nous allons inaugurer un nouveau lieu de rencontre, puisqu'on se retrouvera désormais au bar L'Alternative, qui se trouve 53 rue Faubourg-Boutonnet, à Montpellier donc. Voilà, bon, on vous attend nombreux dès 20h.
Oui, bonjour, ici Rennes. Demain, vendredi 12 décembre, le collectif de soutien aux personnes sans papier passe devant le tribunal correctionnel pour avoir dénoncé haut et fort les pratiques de la police aux frontières. Trois personnes sont poursuivies pour insultes et diffamations sur corps constitué de l'État. La plainte a été déposée par le ministère de l'Intérieur. 30 personnes de ce collectif vont se porter également comparants volontaires. On organise à 13h un rassemblement devant le tribunal de grande instance de Rennes, 7 rue Pierre Abéliard. Le procès aura lieu à 14h. Voilà, j'espère qu'on sera nombreux à venir soutenir le collectif et puis à défendre avec lui notre liberté d'expression et d'opinion. Alors à demain et merci. Au revoir.
Bonjour, je suis très très contente ce matin. Je me suis levée avec la luminosité de la neige et son épais manteau qui feutre tous les sons. C'est tout simplement beau, beau, beau. Et puis la DDE est justement en grève. Et donc, oui, 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 nous les gars français, nous sommes bien obligés de nous en rendre compte. Aucun bruit, car aucun engin ne déneige. Et donc, les voitures moins nombreuses circulent doucement. Et c'est beau, beau, beau. Vraiment, vraiment, merci le service public de la DDE. On voit enfin ce qu'est la neige à Gap. Allez, merci. C'était Marie de Gap. À bientôt. Au revoir. J'écoute toujours et je suis super contente de vous entendre. Ciao.
Merci pour la neige, merci chers amis, chers AMG, j'allais dire OGM, chers AMG pour tous ces messages. Visiblement, auditivement en tout cas, le reportage d'hier sur Tarnac, le reportage de Pascal Pascariello vous a amusé, vous a excité, vous a plu. Enfin, merci, merci, merci. On espère que ce sera la même chose pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on retrouve Maurice Criégel-Valrimont. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va être une découverte. Pour ceux qui le connaissent déjà, qui l'ont découvert dans la basse, j'y suis une redécouverte. Pourquoi aujourd'hui Maurice Criégel-Valrimont? Parce qu'on parle beaucoup de terrorisme en ce moment, et c'est intéressant de revenir sur la résistance. Quand est-ce qu'on passe de la résistance au terrorisme, et quand est-ce qu'on passe du terrorisme à la résistance? C'est important de réfléchir sur ces mots-là, sur ces termes-là, parce qu'un jour, on est terroriste, on se retrouve résistant, et le contraire. Vous connaissez ça, mais c'est pas mal de l'entendre revécu, expliqué par un grand personnage, et puis aussi, évidemment, avec une profondeur historique, une profondeur de l'engagement qui était cette profondeur de Maurice Criégel-Valrimont. Donc on le retrouve aujourd'hui. Chomsky et compagnie se portent bien, et ce soir nous serons, l'équipe du film sera à l'espace Saint-Michel après la projection. Donc aujourd'hui, Maurice Criégel-Valrimont. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est le repère de Dreux. Donc demain soir, jeudi 19h30, nous avons un rendez-vous sur la laïcité. Donc je donne rendez-vous à tous les Drouais, au Petit Creux, 12 rue Retrou, à 19h30. Et bonjour à toute l'équipe de la Bâche qui suit. Au revoir.
Bonsoir Daniel, je suis une mamie de Lyon. Tarma, quelle émission! Effet secondaire plutôt positif, disait un habitant. Je l'espère, tenez bon, parce que moi je voudrais garder l'espoir dans ce monde de dingue. Mathilde de Lyon, une mamie qui prend le TGV sans dire de bêtises. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel et toute l'équipe et les auditeurs de là-bas si je suis. Écoutez, encore une injustice de la part de M. Sarkozy. Ça continue et de tout ça clique. Voilà qui vont nous supprimer, aux femmes seules, la demi-part pour les impôts. Ça continue les coups bas pour les gens les plus vulnérables. Joséphine de Saint-Étienne, merci.
Bonjour, voici une réaction à chaud. On est jeudi matin. Je viens d'entendre au journal de 7h30 l'inspecteur des Midi-Pyrénées qui prenait la parole pour répondre à l'enseignant M. Casal qui refuse de pratiquer le soutien scolaire quotidien depuis quelque temps. Et je suis fonctionnaire, professeur des écoles moi-même, et en l'entendant parler du devoir du fonctionnaire, de ses menaces à peine voilées, j'ai honte. D'abord j'ai honte de ne pas être en grève moi-même, et puis j'ai honte de voir la régression de notre pays. Alors j'appelle aussi pour pousser ce coup de gueule, mais aussi souhaiter bon courage à M. Casal. Daniel, à quand tu fais un reportage dans son école ? Merci, c'était Isabelle de Massy.
Y a pas d'argent pour les chômeurs, les paysans, taxis, pêcheurs. Y a pas d'argent pour le lycée, le collège, l'université. L'apathie de la majorité, tremblant, bouffant, devant la télé, gavé d'images et d'émotions. Petit soldat de l'opinion, tu votes utile, t'as des idées, et tu es dit prêt à t'engager. Tu fais ton chèque au Téléthon, des produits bio blindent ta maison. Es-tu prêt à tout un petit peu lâcher, à faire un pas pour mieux consommer, à lâcher de la facilité, éteindre ta télévision? On pourrait peut-être en parler dans ton village, dans ton quartier, une fois par mois, avec un verre, on dirait on crée un repère. Si tu habites le canton, de Fayence jusqu'à Tanneron, on choisit un bar sympathique, ensemble tu verras. C'est magique. Vendredi 12-12-08 à 19h au bar Le Latitude à Tourette, dans le canton de Fayence, dans le Var, juste derrière Intermarché. Repère de là-bas, si j'y suis. Et le 14, dimanche, au domaine de Tassy, toujours à Tourette, daube de sanglier avec du vrai sanglier, tu es dans les bois, pour financer le nouveau journal du pays de Fayence, un journal associatif, gratuit, sans pub et distribuée dans les 8000 boîtes aux lettres du canton, ce qui commence à faire flipper un peu nos élus. Mais on les avait prévenus. Ciao, viva, portez-vous bien.
Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques relevant non d'une doctrine politique mais de l'aventurisme dont ont toujours fait preuve malgré leurs protestations les dirigeants du Parti communiste auxquels on accola faussement le nom de Français.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement avec son bon sens et son expérience habituelle le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Déjà, dans une série de réunions et de conférences, nous avons mis sous les yeux d'une foule attentive des documents irréfutables. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur, sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
Le seul moyen, et c'est ça qui justifie l'optimisme, c'est de s'atteler à la tâche. Si vous vous attelez à la tâche, vous avez de meilleures solutions que dans le cas contraire.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, j'y suis avec Maurice Criégel, Valérie Mont et François Ruffin, un résistant.
Flight number 2, arriving from...
On prononce Criégel-Valrimont, c'est bien ça, ou Criégel-Valrimont?
On prononce Maurice Criégel-Valrimont pour marquer que en 18, l'Alsace a cessé d'être germanisée. Mes premiers mots de français, c'est en 1918, quand les troupes françaises à Strasbourg, nous sommes des meutes de gosses de 4 à 8 ans, et nous nous précipitons vers les poilus qui arrivent, et ce sont nos quatre premiers mots de français que nous prononçons tous ensemble. Bonjour papa, salut poilu. Ou salut poilu, bonjour papa. Tous les gosses qui sont là, on leur a dit que leur père était soldat. Et ce sont mes premiers mots de français en 1918.
Français, quiconque parmi vous, fonctionnaire, militaire ou simple citoyen, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
La France. Ici la France.
La levée des couleurs, un drapeau, il y en a de plus grand. Un mât, il y en a de plus haut. Mais ce mât, c'est une branche coupée vivante au tronc d'un arbre des sommets. Et parce que ce mât tordu est un prolongement de la terre, ce n'est plus un drapeau qu'il porte, mais le drapeau. Les scènes que nous voyons ont été tournées par les jeunes gens du maquis, en plein cœur du royaume de la Gestapo. Qu'elles aient traversé les 20 polices qu'entretiennent Himmler et Darnan sur notre territoire est en soi seul un miracle de courage et d'audace. L'autre miracle, c'est que malgré les 20 polices et les troupes allemandes qui battent de leurs bottes nos villages, nos champs, nos chemins, les jeunes gens de France, chaque jour, montent vers le maquis, volontaires, toujours plus nombreux pour une vie toujours plus rude, par
Maurice
un,
Schumann.
Par deux, par trois, ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. La résistance française avait déjà ses journaux comme elle avait ses héros, elle avait ses livres comme elle avait ses martyrs, elle a dit « J'aurai mes films » et elle les a eus. Et grâce à elle, vous les voyez. Tous, armées secrètes, francs-tireurs et partisans, corps francs des mouvements unis de résistance, organisation de résistance de l'armée, maquis, tous forment les forces françaises de l'intérieur.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
La tristesse, c'est quand le dominé accepte et même collabore à son propre asservissement. La tristesse, c'est quand on entend la certitude de l'inéluctable. La tristesse, c'est la voix qu'on vient d'entendre, celle de Philippe Pétain, qui incite à la soumission, à la collaboration. Mais il y a aussi l'autre voix qu'on vient d'entendre, là, c'était celle de Maurice Schumann, qui incitait, qui invitait, qui encourageait à la résistance. Évidemment, du courage, il en fallait. Tant ceux qui étaient enclins à résister, français de toute sensibilité, devaient braver l'insulte d'être des terroristes, des traîtres. Les choses étaient aiguës, les choses étaient féroces. La situation était extrêmement désespérante et violente et espérante aussi pour certains. Et malgré cela, le 15 mars 1944, le Conseil national de la résistance publiait un programme qui aujourd'hui ferait de ses auteurs des gauchistes allumés, cinglés, tant leurs prétentions semblerait aujourd'hui irréaliste, une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Je prends quelques éléments de ce texte qui n'était pas seulement les idées des communistes engagés dans la résistance, mais aussi bien des gaullistes, puisque c'est ce Conseil national de la résistance et ses textes avaient été dirigé tout d'abord par Jean Moulin. Beaucoup d'hommes et de femmes ont participé à cette aventure intellectuelle, politique, humaine, remarquable, dont Maurice Criégel Valrimont, que François Ruffin a rencontré pour nous.
Je voudrais savoir, avant d'entrer dans la résistance, peut-être même avant la guerre, qui était Maurice Criégeol Valdrimont?
Vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce que, en ce qui me concerne, je ne suis pas devenu résistant, je n'ai jamais cessé d'être résistant. Et en fait, étant né à Strasbourg en 1914, quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, nous allions traverser le Rhin à la nage. C'est-à-dire que c'est la porte à côté. Et nous savons ce qui se passe là-bas. Là-bas, il y a des affrontements déjà. Les gens se battent dans les rues, avec des armes dans certaines occasions, qui sont le signe annonciateur de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et même avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, en tant qu'étudiant en droit à l'époque, j'étais un jeune antifasciste. Certains de mes professeurs auraient voulu que je fasse une agrégation en droit. Je suis lauréat de la faculté de droit de Strasbourg. Mais moi, j'étais un étudiant relativement avancé et je voulais changer le monde. Alors tout ce qui ne comportait pas cela comme choix essentiel, je n'étais pas d'accord.
Donc vous avez renoncé à faire carrière d'avocat ou
absolument, dans toute ma famille et dans mon entourage universitaire.
Et vous avez fait quel choix alors à ce moment-là?
J'ai fait le choix de vouloir changer le monde à moi tout seul.
Peut-être pas tout seul quand même.
Exactement, vous avez tout à fait raison. Non, mais j'ai fait le choix, comme c'est le cas des jeunes un peu ardents, de vouloir participer à des grandes choses. Alors, la vérité, c'est que pour faire ce choix, j'étais en opposition avec mon milieu. J'ai quitté Strasbourg, je suis allé au printemps de 1936. J'ai choisi mon moment, je suis allé à Paris, où il y avait quelques-uns des étudiants que j'avais connus à Strasbourg, et là, comme je ne voulais pas qu'on m'aide, je voulais être indépendant, je choisissais entre acheter de quoi manger et acheter des timbres pour faire des offres d'emploi. Et mes derniers sous sont allés dans les timbres pour écrire dans les contentieux de banque et d'assurance pour trouver du travail. Et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé du travail un tout petit peu avant mai 36. Et c'est comme ça que je suis devenu employé d'assurance. Et où un jour, mon chef de service m'offre une promotion qui consiste à doubler mon salaire. Et puis je me mets à rire. Et je lui demande s'il sait qu'on a voté pour que je sois secrétaire général de mon syndicat 8 jours avant. Alors il se marre aussi, il rit aussi. Et la conversation s'arrête évidemment là. Mais c'est pas ça qui est important. C'est que très peu de temps après ça, je suis licencié pour insuffisance professionnelle. Je suis mobilisé et vu l'exode. J'ai vu en Auvergne, j'ai vu des paysans qui vendaient de l'eau pour les bébés. Ça m'a foutu. Je les aurais tués. C'était terrible. La situation était terrible. C'était tout à coup notre France. C'était misérable. Vous allez maintenant me demander pourquoi j'interviens, pourquoi je fais quelque chose.
Voilà. C'est comment devient-on résistant à ce moment-là?
Tout ce que je vis à ce moment-là, pour le jeune homme que je suis, un peu exalté, d'abord un pays occupé, quand on vous dit vous êtes un pays libre, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand il n'est plus libre, ça veut dire quelque chose. C'est terrible, terrible. Tout est terrible. Vous descendez les Champs-Élysées et tout à coup vous avez une musique militaire allemande à côté de vous et vous êtes obligé de vous ranger. Rien que ça. Vous voulez les assassiner, vous voulez les tuer, vous voulez les supprimer, et c'est eux qui défilent. Et tout est comme ça. Vous avez une image de votre pays, vous avez vécu les Lumières, vous avez aimé les exaltations de la liberté, même ses excès. À cette époque, je n'ai pas encore été communiste du tout, mais je connaissais les hommes. C'était des braves types. Ils avaient raison, ils avaient tort, mais c'était des hommes entièrement dévoués aux autres. Et on les fout en tôle. Je ne peux pas accepter ça. Quand tout est à refuser, il faut dire non. C'est vrai que vous savez que de vous engager, ça comporte des risques. Mais il y a un moment où ne plus être un homme, c'est pire que de mourir. La question vient normalement, on dit, mais c'était une petite minorité au début. Ce que ça veut dire. Quand vous prenez les années 40-41, vous avez militairement, les gens plantent des petits drapeaux sur les planisphères ou sur les maps mondes. Les Allemands vont jusqu'au fin fond de la Russie. Même les Italiens occupent l'Afrique. Les Japonais occupent là pratiquement toute l'Asie, etc. Les autres avancent partout. Alors vous allez dire à votre voisin, va sur les Champs-Élysées détruire la formation allemande, ça n'a aucun sens. Donc ne dites pas, il y en a peu. Dites ce qui est vrai. Il y en a quand même et tout de suite. C'est ça la réalité.
Grenoble, où sévit le terrorisme, a été le théâtre d'un grave attentat. La poudrerie de la ville a sauté.
Des morts, des blessés, 2000 sinistrés, tout un quartier détruit ou gravement endommagé. Le sang français coule à nouveau, mais cette fois versé par d'autres Français.
Les terroristes, c'était eux. Le terroriste, c'était lui. C'est l'homme que nous écoutons aujourd'hui. Maurice Krégel, Valrimont, qui devait faire face, était en but, lui et d'autres jeunes Français de l'époque, à la propagande gouvernementale dont on vient d'entendre un petit extrait. Comment devient-on résistant? Comment va-t-on vers la résistance? Comment s'engraine cet engagement?
Vous avez ce sentiment d'exaspération quand il y a les Allemands sur les Champs-Élysées. Vous avez cette colère continuelle contre cette occupation. Mais comment va se traduire votre premier acte de résistance, votre entrée en résistance?
C'est un continuum. La vérité, d'une façon ou d'une autre, compte tenu que j'ai des rapports militants avec beaucoup de gens, j'ai une expérience syndicale et politique. Je ne me perce pas d'illusions. Il ne suffit pas que les gens me disent qu'ils sont contre les Allemands pour que je considère que je suis organisé avec eux.
Finalement, avant la guerre, vous étiez dans un tissu syndical et un tissu politique. Ce que vous dites, c'est que ce tissu syndical et ce tissu politique, pendant la guerre, il était, dès l'occupation, il était plus ou moins disponible pour collectivement former un noyau de résistance.
C'est absolument vrai. Ce que vous dites est très important. Très rapidement, une partie des gens qui avaient déjà une activité, sous une forme ou sous une autre, la poursuivent. Ils se regroupent, ils se rencontrent, ils parlent, ils commencent à faire quelques petits tracts, etc. Ma femme, celle que vous avez vue à l'entrée, avant la guerre, elle était dans les organisations naturistes, etc., qui vont... Et c'est là que qu'il y avait des hommes comme Fabien. Mais ils étaient déjà à ce moment-là, ils étaient en rapport. Alors, ce sont des rapports multiformes.
Votre activité en tant que résistant, elle consiste à diffuser des tracts, des journaux, et à organiser plus ou moins une armée, au moins une armée de réserve, une armée de libération.
Des noyaux. Moi, par exemple, je passais mon temps dans les trains de nuit parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Debout. Et j'allais dans toutes les villes de zone sud pour regrouper des éléments capables de diriger les forces militaires. C'était un peu aventureux déjà. Enfin, on faisait, mais on le faisait. Partout, nous arrivons sans difficulté majeure à constituer des états-majors militaires avec des gens ou bien capables ou bien se formant. Mais enfin, nous le faisons. Les Allemands sont en grande difficulté et ils instituent le service du travail obligatoire. Le service de travail obligatoire a été le plus formidable moyen de recrutement de la résistance que nous ayons jamais eu. Jusque-là, une partie de la population, quand on leur disait « ce sont des exaltés, ce sont des cinglés, ce sont des terroristes, ils font leur coup et puis ensuite ils font tuer les gens comme otages », ne les suivait pas. Une partie des gens était impressionnée. Quand on leur a dit « vos gosses, on va les envoyer dans les usines dont tout le monde savait qu'elles étaient bombardées en Allemagne », et on y envoie vos gosses, vous ne les verrez plus, et on vous les renverra comme cadavres. Et que s'est-il passé? Nous ne sommes pas restés inertes. Nous avons dit aux gens, ne donnez pas les gosses, et nous vous aiderons à les planquer. Et nous n'avons pas simplement dit, nous aiderons à les planquer, nous avons organisé le moyen de les soustraire. Nous avons saboté les centres de recrutement. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous avons organisé une industrie du faux papier par centaines de milliers. Parce que le moins que l'on puisse dire de ces enfants, le moins que l'on puisse dire de ces jeunes gens, c'est qu'ils devenaient une armée de réserve. Mais tout de suite est disponible et capable d'agir. C'est énorme. Alors, là, vous avez une illustration de ce phénomène qui montre que la division en petits collabos, en petits résistants et en masse inerte, ça n'a pas de sens. Ça ne correspond absolument pas à l'histoire. C'est pas comme ça que ça s'est joué.
Les jeunes travailleurs restant en France ont été placés dans des centres d'application accélérés où ils vont devenir, après un stage de quelques mois, de parfaits ajusteurs ou tourneurs. Ces jeunes pourront être incorporés en France dans des centres industriels ou agricoles aussitôt après la remise du diplôme officiel.
Ils ont chaque semaine plusieurs heures de cours qui vont leur permettre, la pratique aidant, d'apprendre rapidement la langue allemande. Le travail dans les ateliers d'apprentissage sous la conduite de contremaîtres expérimentés.
Simplement, là, est-ce qu'il y a un moment où il y a quelque chose que je voudrais comprendre, c'est qu'on est dans une lutte de libération. On est dans une lutte de libération nationale. Et à un moment, il y a un programme qui surgit, le programme du Conseil national de la résistance, et qui là n'est plus seulement un programme pour dire nous allons bouter les Allemands hors de France, mais aussi on va instaurer un certain nombre de mesures politiques, de mesures sociales, quand le territoire sera libéré. Alors comment ça se fait qu'on passe d'une lutte de libération nationale, avec toutes les tendances politiques, à la limite on pourrait dire à ce moment-là, à une lutte qui va avoir un contenu politique et un contenu social assez important?
Le seul point sur lequel je fais une toute petite réserve, c'est de dire on passe. La vérité, c'est une évolution normale. Les forces institutionnelles manquent à leur mission. Elles cessent d'être les forces dirigeantes. Elles ne dirigent plus rien. C'est ça la donnée réelle. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour l'armée. Mais tout le reste est à l'avenant. Cette très respectable magistrature qui, à l'époque, a une image quasi religieuse. Est-ce que vous savez combien de magistrats ont refusé de prêter serment à Pétain? Un seul, dans toute la France. Bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La haute administration, les églises, les forces économiques, c'est épouvantable. L'organisation des comités économiques, c'est directement au service des Allemands. Et tout est à l'avenant. C'est pour ça que je vous dis, on ne passe pas. On n'a rien à passer. Ils sont pas là. En même temps, il y a déjà, et il ne faut pas le voiler, la résistance dans son ensemble, c'est pas une idylle dans un pré vert avec des pommes rouges et des lunes brillantes. Ce sont des tendances différentes, c'est la France. C'est la France dans sa différence. Et cette différence, il ne faut pas la camoufler. Je ne veux prendre qu'un exemple. Au comité d'action militaire, le militant syndical que je suis rencontre un homme des 200 familles. C'est Jean de Vogué. C'est un homme des 200 familles. C'est l'industrie sucrière. Il est propriétaire du château de Vaux-le-Vicomte. Il est officier supérieur de la Royale. Dans le jargon de l'époque, c'est un ennemi de classe. Mais de quoi lui et moi nous nous apercevons, c'est que dans la mesure où nous voulons la libération du territoire, nous nous rejoignons.
Mais justement, ce qui est surprenant là, dans ce programme du Conseil national de la résistance, c'est qu'on ne se limite pas à la libération du territoire, mais il va y avoir une volonté d'avancée sociale. Et là, on se dit, si vraiment il y avait des gens des 200 familles...
Mais ils y sont.
Mais si, à l'intérieur de la résistance, comment ça se fait qu'on a un programme qui est fort à gauche?
Mais ça signifie une chose toute simple. Un certain nombre d'hommes, y compris d'origines sociales diverses, prennent conscience de ce qui est majeur du point de vue de l'intérêt national. Patriote, ça veut dire quelque chose. Et je ne revendique pas d'être moi tout seul un patriote. Je ne conteste pas qu'à ce moment-là, De Vogué est un patriote. Eh oui, mais ça c'est l'histoire. Quand l'histoire grandit, les hommes grandissent avec. Et c'est beau à voir. D'ailleurs, vous savez bien à quelle vitesse ensuite on revient en arrière. À toute allure et en y mettant la cravache.
Pour la première fois, le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris. Monsieur Saillant, secrétaire de la CGT, président du CNR.
Je voudrais que dans les pays alliés, les hommes d'État nous entendent et nous comprennent, nous, de la résistance française. Nous ressentons au CNR douloureusement l'injustice qui est faite à notre pays lorsqu'on refuse de reconnaître le gouvernement actuel de la France.
Monsieur Dastier, du mouvement de libération nationale.
Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice. Que les biens des collaborateurs, des puissants seigneurs, des banques et des trusts qui ont trahi soient confisqués, soient saisis, parce que c'est la justice.
Monsieur Tessier, des syndicats chrétiens.
Le syndicalisme chrétien avait préconisé l'instauration de la démocratie économique par l'établissement à tous les degrés de conseils, comités ou commissions paritaires.
Monsieur Gillot du Parti communiste.
Pour que la France soit libérée, il faut qu'il n'y ait plus, sur le sol de la patrie, ni un Boche, ni un prêtre.
Voilà, Conseil national de la résistance en mars 1944, avec ce texte que j'évoquais tout à l'heure, où on a pu lire la création de la sécurité sociale, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d'atelier, etc., etc. Eh bien, voilà, on est avec un de ceux qui a vécu cette page d'histoire, et qui n'est pas une histoire abolie, qui est simplement une histoire trop oubliée et un héritage en grande partie dilapidé. Maurice Krigel, Valrimont, avec François Ruffin.
Aujourd'hui, quand on veut revenir quand il s'agit de dire qu'on va revenir sur des acquis sociaux, on ne dit pas qu'on va détruire les acquis sociaux, on dit qu'on va faire une réforme, que la réforme va être là pour sauver le système, et que le système est en péril, parce que il y a soit des déficits publics, il y a des déficits commerciaux, il y a un trou dans la caisse de la Sécu, et tout ça se chiffre, est chiffré à chaque fois par les ministères en millions ou en milliards d'euros. Moi, ce qui me paraît assez surprenant, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez contribué à mettre un système de retraite en place à la Libération. À la Libération, il y a eu la sécurité sociale qui a été mise en place, les retraites. Et tout ça se fait dans un contexte où, là, les déficits publics, c'est même plus la peine d'en parler. J'avais relevé un petit extrait de la situation de la France au moment où vous prenez ces mesures. Donc, on nous dit, en 1944... La France est à genoux, 74 départements ont servi de champ de bataille, la production industrielle ne représente que 29% du niveau de 1929, les recettes fiscales couvrent à peine 30% des dépenses publiques, la dette nationale a quadruplé, une foison de billets pourchasse une pénurie de produits. Et donc c'est dans ce contexte-là que vous êtes complètement inconscient, vous voulez mettre encore plus la France à genoux, c'est dans ce contexte-là que vous décidez qu'il faut mettre en place une sécurité sociale et des retraites. Mais on a dû penser que...
Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire qu'à l'époque, il n'y ait pas des gens qui nous ont dit ce que vous venez de dire. Ils ont dit, vous êtes fous. La France, c'est bien pire que ça. La France n'avait plus de ponts. La France n'avait plus de charbon. La France n'avait plus d'acier. La France n'avait plus d'énergie. Bien, c'est vrai que c'était à peine concevable. Bien, nous sommes passés outre tout bonnement. Nous sommes passés outre et nous avons fait les choses. Alors là, la preuve a été faite. L'investissement social est un investissement économique formidable. Et c'est vrai, je n'ai aucune hésitation à le dire, les 30 glorieuses n'auraient pas été possibles si nous n'avions pas fait cette législation sociale. Historiquement, la chose est démontrée. On pouvait discuter avant, mais historiquement, on ne peut plus en discuter. C'est grâce à la législation sociale que les progrès ont été accomplis. Ça veut dire tout simplement une chose d'une simplicité puérile. Les gens qui vivent sur le dos des autres, les gens qui bénéficient du travail des autres, les gens qui exploitent les autres, ils n'ont pas de scrupules. Ils sont capables de charité. Mais le fond de leur attitude est de croire que pour vivre, pour que l'humanité fonctionne, il faut qu'il y en ait qui profitent et d'autres qui subissent. Je dis que dans toute une série de domaines, le fait de donner, de garantir ces droits sociaux résout le problème posé. Je dis que si on passe de, en fait, 7 millions de gens qui sont hors de circuit du travail, ce qui est le cas, si on passe simplement à 2 millions de gens, le problème est résolu.
Mais c'est comme s'il y avait aujourd'hui un sentiment d'auto-paralysie de chacun, qu'on s'auto-convainquait que c'est pas possible, alors que finalement... Il n'y a pas les Allemands en face, mais c'est comme si on...
Je suis pleinement d'accord avec vous. Et moi, de ce point de vue-là, d'abord, ma certitude, ça, c'est une évidence. Si vous prenez même les 2-3 dernières années, vous avez connu, il y a quelques années, comme ça, une espèce de morosité insupportable. On s'emmerdait, excusez-moi. Mais c'est vrai. Les choses sont devenues plus intéressantes. Il se passe tout le temps quelque chose qui mérite examen, qui mérite qu'on en discute, qui mérite qu'on en parle. On ne s'ennuie plus autant. Et c'est le signe que largement, il y a des tas de gens qui posent des bonnes questions. Ce qui manque encore, c'est les bonnes réponses. Mais les bonnes questions sont très souvent posées. Alors, moi, j'ai du mal à le dire, mais il faut attendre un peu, mais pas trop, parce que c'est un peu tard pour moi.
Vous voulez dire que vous êtes pressé d'assister à ce printemps-là ?
Quand j'étais jeune député, le père Cachin était... il avait 80 ans, c'est-à-dire que maintenant ce serait un jeune homme pour moi. Mais à l'époque, c'était un très vieux monsieur. Et alors nous étions quelques jeunes intellectuels comme ça, et ça lui plaisait de retrouver sa propre jeunesse.
Marcel
et
Cachin, c'est ça?
Marcel Cachin, le dirigeant communiste. Et alors de temps en temps, il nous prenait par le bras comme ça, il disait, faut y aller, faut vous dépêcher, moi je veux le voir, le socialisme. Et nous, on trouvait que c'était bien.
Je voulais revenir, juste balayer d'un regard ces 40 derniers, 45, 50, un demi-siècle de vie politique. Vous avez été député communiste, finalement vous avez été exclu du parti. Vous avez ensuite assisté aux deux septennats de François Mitterrand, où vous avez un peu auparavant servi de médiateur entre diverses tendances à l'intérieur de la gauche. Vous avez soutenu en 1988 la candidature, voire fait naître la candidature de Pierre Juquin. Tout ça, c'est pas des choses qui sont sous le signe du succès. Quand on est, d'abord, il y a l'exclusion, les apports sociaux de François Mitterrand, ils sont quand même pas évidents lorsqu'on les regarde aujourd'hui. La candidature de Pierre Juquin, ça a été un échec à tous les sens du terme. Est-ce que vous dites pas, j'ai milité pendant 60 ans, quel est le sens de tout ça? Est-ce que j'ai pas perdu mon temps?
Non seulement je ne dis pas ça, je dis très clairement le contraire. Les vies militantes sont des belles vies. Entre quelqu'un qui passe sa vie à compter ses sous, ses propriétés, des trucs comme ça, et la vie d'un militant, j'ai pas l'ombre d'une hésitation. La vie militante est généralement une vie riche. J'ai 92 ans bientôt. Tenez, puisque vous m'avez taquiné, mon sentiment extrêmement fort, malgré l'âge que je subis, comme tout le monde, mais malgré l'âge, mon sentiment extrêmement fort est d'être incroyablement privilégié. Je n'y peux rien. Alors, vous voyez bien, je n'affecte pas ce sentiment. Et si vous ne m'aviez pas taquiné un peu, je ne l'aurais jamais dit. Mais, je tiens à vous le dire, je partage ce sentiment avec ma femme qui va avoir 91 ans ces jours-ci. Nous avons eu une très belle vie. Pour tout ce que j'ai connu, je n'en vois pas de meilleur. Alors, peut-être ai-je un peu d'illusion, mais laissez-moi mes illusions.
C'était un entretien réalisé par François Ruffin avec Maurice Criégel-Valrimont, décédé le 2 août 2006, à lire de Maurice Criégel-Valrimont avec Olivier Biffaut, Mémoire rebelle aux éditions Odile Jacob. Et puis d'autre part, nous vous signalons que la pièce Griselidis, la catin révolutionnaire, basée sur l'échange de courriers avec Jean-Luc Henning, sera jouée ce soir et demain soir au Théâtre du Marais, 37 rue Volta, dans le 3e arrondissement de Paris. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis ». À la technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Claudine Lapersonne. Réalisation Coyen Guyen et Raphaël Moutard, assisté de Charlotte Perry, chef du répondeur Agnès Lebot. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de là-bas, c'est Jiffy, au 01 56 40 37 37 ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com.
Time.